Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, spécial lendemain de Saint-Valentin. La fête, une fête qu'ici, dans l'équipe, on adore, surtout Eva Rock, dont c'est, on peut le dire, la fête préférée, tout simplement. Alors, chers auditeurs, si jamais vous me trouviez déjà assez mauvais esprit, assez cynique, voire même parfois nihiliste, alors je vous propose d'écouter cette confidence d'Eva hier durant une coupure pub, où je lui demandais si elle aimait la Saint-Valentin.
Alors là, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la Saint-Valentin, si tu veux. Tu sais ce que je fais, Eva, la Saint-Valentin. J'adore réserver des restos pour 12. Bah, évidemment, après, j'annule, hein, au dernier moment.
Et oui, l'ordure n'était pas celle que vous croyez, chers auditeurs. Heureusement, Debout les copains, ce n'est pas que l'abjecte perfidie d'Eva Rock, c'est aussi l'honnêteté intellectuelle de Fabrice Dalméda, notre agrégé préféré qui ce matin, sans canaille, à l'occasion du mondial du tatouage, il a décidé, bon, non pas de se faire tatouer un cobra sur la fesse comme je l'avais suggéré, mais de nous parler de l'histoire de cette pratique ancestrale qu'on appelle le tatouage.
Merci d'écouter Europe 1 ce vendredi 15 février. Et très bon réveil, il est 6h. Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 15 février. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
La négociation sur l'assurance chômage ne tient plus qu'à un fil. Les syndicats donnent jusqu'au 19 février au patronat pour proposer un projet d'accord sur les contrats courts. Un aide-soignant soupçonné de maltraitance dans une maison de retraite à Arcueil va être jugé en comparution immédiate cet après-midi. Et puis les jeunes Français se mobilisent à leur tour et rejoignent aujourd'hui le mouvement mondial de grève pour lutter contre le changement climatique.
Europe 1.
Après plus de 7 heures d'échange, 2 suspensions de séance, la 9e réunion de négociation sur l'assurance chômage entre les partenaires sociaux a frôlé de peu l'échec total. Il ne reste plus qu'un petit espoir, mais pour cela, les syndicats demandent au patronat de s'engager pour lutter contre les contrats courts. Date butoir le 19 février, à la veille de la dernière séance. Écoutez, Denis Gravouille, représentant de la CGT.
On a un patronat qui est complètement accro à la précarité, qui ne veut entendre parler d'aucun système de régulation, qui veut mettre éventuellement quelques pansements sur la précarité, mais qui ne veut surtout pas la remettre en cause. Si d'un seul coup, par miracle, le MEDEF se mettait à changer complètement d'avis, faire un virage sur elle à 180 degrés et se mettait à envisager un système de bonus-malus, une surcotisation, on regardera ce qui se passe dans le texte. Mais franchement, il faut arrêter de prendre les vessies pour des lanternes, on verra bien.
Denis Gravouille avec Olivier Samin pour Europe 1. L'industriel Saint-Louis Sucre annonce la fermeture de 2 de ses 4 sites en France en 2020. Une vaste réorganisation qui va se traduire par 130 suppressions d'emplois. Les usines de Cagny dans le Calvados, ces villes dans la Somme et Marseille sont concernées.
Hier dans l'Indre, Emmanuel Macron a dû répondre à la colère des mères et leur sentiment d'abandon.
Déserts médicaux, manque de maternité, de transport ou encore besoin d'emplois aidés. Le chef de l'État a rencontré les élus dans le cadre du grand débat. Il s'est aussi entretenu avec des chefs d'entreprise, parmi eux Gilbert Guignard, qui salue l'engagement du chef de l'État.
Je pense que le président, il relève les manches, il a fait des petites bêtises, il est en train de les corriger. Nous, ce qu'on veut, un chef d'entreprise comme nous sommes, on ne fait pas toujours que des bonnes choses non plus. Donc il faut savoir se corriger en permanence du 1er janvier au 31 décembre. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Il faut que tout le monde prenne conscience, y compris les préfets. Il faut qu'ils se mettent, qu'ils viennent à notre écoute aussi, parce que l'économie, c'est nous. Hein. Les producteurs de richesse, c'est nous. Moi, j'ai un préfet qui m'a dit un jour, « Monsieur Guignard, vous inquiétez pas, on va vous aider. » Bon, ben j'attends.
Gilbert Guignard avec Jean-Rémy Baudot. La mairie de Bordeaux, la majorité va proposer Nicolas Florian comme successeur à Alain Juppé. La première adjointe Virginie Calmels a profité de la réunion de groupe des élus de la majorité pour annoncer sa future démission. Elle retourne dans le secteur privé.
L'aide-soignant incriminé pour avoir frappé, giflé et tiré par les cheveux une pensionnaire d'un EHPAD du Val-de-Marne va comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Créteil.
Oui, confronté aux images vidéo, l'homme a fini par avouer. Il dit avoir, je le cite, pété un câble. Hier, les familles des résidents ont été reçues par la directrice. Elle affirme qu'il s'agit d'un cas isolé et condamne évidemment ce comportement choquant.
Mon équipe et moi-même sommes totalement dévastés et sidérés par ces actes de violence insoutenables. Bien évidemment, toutes nos pensées se tournent vers la résidente et sa famille. La famille avait alerté, maintenant l'état de santé de la dame ne permettait pas forcément de pouvoir mettre en lien d'éventuelles problématiques physiques avec de la violence. Nous sommes sidérés justement parce que aujourd'hui rien ne nous laissait penser qu'un tel acte et qu'une telle violence pouvait arriver, et encore moins de la part de ce professionnel. Au stade de l'enquête, on est sur un cas isolé.
Eugénie Magnier, jointe par Marguerite Lefebvre. Éric Drouet comparé aujourd'hui pour avoir appelé à un rassemblement début janvier, place de la Concorde à Paris, une manifestation de gilets jaunes qui n'avait pas été déclarée en préfecture, un délit passible de 6 mois de prison. 14 partis politiques lancent un appel contre l'antisémitisme. Ils invitent les Français à se rassembler mardi prochain à Paris, notamment la France Insoumise qui n'a pas signé le texte affirme ne pas avoir été sollicitée. Mais selon Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, son message adressé à Jean-Luc Mélenchon est resté sans réponse.
Premier tour de chauffe aujourd'hui des jeunes Français pour lutter contre le réchauffement climatique.
Lycéens et étudiants rejoignent le mouvement lancé un peu partout en Europe, mais aussi aux États-Unis. Rendez-vous devant le ministère de la Transition écologique à Paris cet après-midi. Félix Rag, étudiant en urbanisme, il a 22 ans. Il est l'un des coordinateurs du mouvement La Jeunesse pour le Climat.
L'objectif de cette mobilisation, c'est d'avoir une diversité de formes d'action. Donc de la désobéissance civile jusqu'à le port d'un brassard pour montrer qu'on est en grève et que tout le monde puisse trouver une façon d'agir qui lui correspondent. On nous demande d'aller à l'école, d'aller à l'université pour préparer notre futur, mais on se rend compte que ce futur, il y a de plus en plus un voile noir devant, qui est de plus en plus incertain. L'État français, il dit beaucoup de belles choses, mais en fait, il permet aux émissions de gaz à effet de serre de la France d'augmenter, alors que l'objectif depuis la COP21, c'était de les faire diminuer chaque année. Il faut prendre des engagements clairs, et dès maintenant, on est là pour mettre une pression et pour montrer que, en fait, c'est maintenant qu'il faut agir.
Félix Rag avec l'ordre d'Autriche. Aux États-Unis, Donald Trump va déclarer l'urgence nationale pour construire son mur à la frontière. Le président américain a également promis de promulguer le compromis budgétaire entre républicains et démocrates afin d'éviter le shutdown.
Pas de shutdown entre nous, Céline Kallmann. C'était votre journal. Merci beaucoup, Céline, que je tiens à remercier aussi pour cette délicieuse soirée que nous avons passée hier ensemble dans une alcôve du Buffalo Grill de la Porte de Pantin. Une soirée de la Saint-Valentin que je ne suis pas prêt d'oublier. Comme on dit, on a appris à mieux se connaître.
C'est quoi votre petit surnom à vous ? Cacahuète ?
Cacahuète ? Mais comment vous pouvez m'imaginer que mon surnom puisse être Cacahuète ?
Ça va, moi ? Alors ?
Le jet d'eau de Genève.
Ça va très haut. Et très loin.
C'était vraiment une belle Saint-Valentin. Très romantique.
Tout en finesse. Il est 6h06, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Ce matin, à l'occasion du mondial du tatouage, Fabrice Dalméda retrace pour nous l'histoire de cette pratique qui remonte à la nuit des temps. Oui, Céline ?
Il paraît que t'as un tatouage sur la fesse gauche.
Bah, tu l'as pas vu, après le Buffalo Grill, enfin bref.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur le temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Encore une belle et douce journée, Céline
Lacoste. Oui, c'est vrai. Beaucoup de soleil et ça toute la journée. Passer les brumes matinales ou quelques nuages sur la pointe bretonne et le sud-ouest, ce sera grand soleil pour tout le monde. Pour la douceur, il faudra attendre cet après-midi hein, parce qu'il fait encore très frais ce matin, moins 2 à 9 degrés en moyenne. Cet après-midi, en revanche, ce sera 12 à 20 degrés du nord au sud. Il en fera 14 à Paris et 20 degrés à Biarritz.
Merci Céline. Eva Rock.
Depuis ce matin, 5h, on vous demande vos idées de sortie pour ce week-end ou des petits conseils culturels. Vous êtes nombreux à nous répondre sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Caro, elle nous donne deux conseils. Dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, le musée de la Résistance à Limoges présente une très belle exposition intitulée « Nourrir au front ». Et ensuite, elle nous conseille d'aller nous balader dans les ruines de l'ancienne forteresse de Crozant avec un magnifique panorama sur la vallée de la Creuse qui a inspiré notamment des artistes comme Monet.
Et oui, on en parlait l'autre jour.
Oui, exactement. Merci beaucoup pour tous vos conseils.
Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il nous a rejoint sans rouler des mécaniques malgré son physique de triathlète. Je l'ai souvent présenté comme un donjon invétéré, amoral et libidineux. Jérôme Lacroix a tenté hier de tordre le cou à la rumeur, mais bon, c'est pas un super acteur.
Comme chacun sait, je suis le romantique de la bande.
Non, mais bon, ça marche pas. Bon, allez donjon, on passe au journal des sports. À la une du JDS, Jérôme, les Rennais ont flanché.
À la dernière minute, rageant, ils ont concédé hier soir un match nul en 16e de finale aller de Ligue Europa. 3-3 face aux Espagnols du Betis Séville. Pourtant, ils ont mené 2 fois au score les Bretons, 2-0 puis 3-1. Cela contraint pratiquement ces Rennais à gagner au match retour la semaine prochaine dans un stade souvent à l'ambiance très chaude. Les mines des joueurs étaient basses dans le vestiaire à l'issue de la rencontre, témoigne l'entraîneur Julien Stéphan.
Ils sont déçus et frustrés forcément prendre ce but à la 90e, c'est énervant. Mais on va remobiliser toutes les énergies dès demain matin. Mais on est encore en vie. C'est la fin de la première manche et il y aura une deuxième manche à Séville jeudi prochain.
Jeudi prochain, 21h. Également hier soir, notamment la défaite 1-0 d'Arsenal à Borisov en Biélorussie. La victoire 2-1 de Chelsea à Malmö. Olivier Giroud a marqué en Suède pour Chelsea. Succès également 2-1 de Benfica chez les Turcs de Galatasaray. Le corps d'Emiliano Sala doit arriver ce matin à Buenos Aires. Un hommage doit ensuite doivent lui être rendus dans son village natal avant les obsèques demain. Le corps du pilote de l'avion disparu dans la Manche n'a toujours pas été retrouvé.
On en parlait hier, Jérôme, le conflit entre Guy Novès et la Fédération française de rugby sera soldé le 8 avril.
Oui, date à laquelle sera rendue la décision du Conseil des Prud'hommes de Toulouse. L'audience s'est tenue hier. L'ancien sélectionneur des Bleus réclame 2 900 000 euros 14 mois après un licenciement dont il conteste la validité et le motif est vecteur selon lui d'une profonde humiliation personnelle publique. Guy Novès, qualifié d'orgueilleux par l'avocat de la fédération, l'orgueil poussé à son maximum peut devenir un défaut, se croire unique, a lancé le magistrat. Des mots qui ont touché Guy Novès.
D'entendre une série de mensonges comme ça a été le cas, objectivement, c'est pas facile quand on a donné 40 ans de sa vie. Dire que je suis quelqu'un d'orgueilleux, encore une fois, ça me touche. Je ne me prends pas pour ce que je suis pas, mais qu'on me fasse pas passer pour ce que je suis pas non plus.
Du handball avec les Nantais qui reprennent la deuxième place du classement de la D1 au Montpellierin. Victoire donc de Nantes 26-24 à Chambéry hier soir en clôture de la 14e journée. Et puis en tennis, la France affrontera la Serbie et le Japon lors du premier tour de la nouvelle Coupe Davis à Madrid en novembre prochain. Il faudra sortir de ce groupe pour connaître un éventuel quart de finale. Reste à savoir si les deux numéros 1 de ces nations seront présents. Ça changera tout. Nishikori et Djokovic.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Oui, vous vous souvenez peut-être, en juin dernier, c'était le grand retour de la France en championnat du monde de Formule 1 avec le Grand Prix du Castellet. Vous vous souvenez peut-être aussi des images, des embouteillages monstres que les organisateurs n'avaient pas prévus avant la course aux abords du circuit. Alors, ils ont planché 6 mois pour éviter ça lors de la prochaine édition cette année. L'idée, c'est d'encourager à ne pas approcher le circuit en voiture, avec notamment l'ouverture de parkings gratuits à la Ciotat et au Castellet. Il y aura ensuite des navettes qui seront elles aussi gratuites, le tout soutenu par davantage d'informations en temps réel.
Merci, c'était le Jérôme de Journal La Croix. Journal La Croix, super journaliste. Et là, je vais vous dire, Jérôme, je suis rassuré parce que j'ai sous les yeux la feuille qui va me permettre de lancer la rubrique Histoire de Fabrice d'Almeida. Hier, je l'avais perdue, enfin je croyais, bref, l'auditeur n'en a rien su, mais ça a été une sacrée aventure. Merde.
Je viens de jeter la page. Il me manque la page, pardon, il me manque la page.
C'est bon, il ne me manque plus la page. Que d'aventure dans cette émission. Tout de suite, le grand spectacle continue avec la rubrique de Fabrice d'Almeida.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour à tous.
Alors là, il nous a sorti, il a regardé, il a vu un Suisse, il s'est dit je vais prendre l'accent suisse. Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Avec Ovo Malte. Bon, bref, le mondial du tatouage s'ouvre aujourd'hui. Est-ce que cette pratique du tatouage a toujours existé en France?
Eh bien, figurez-vous qu'il en existait sous l'Antiquité. On a retrouvé par exemple Ötzi, l'homme des glaces, qui avait un tatouage sur lui moins 5300 avant notre ère. Mais le christianisme l'a interdit progressivement. Et le pape Adrien, au 8e siècle, a même pris un texte pour l'interdire définitivement. Les juifs et les musulmans, d'ailleurs, à l'époque, ne le pratiquaient pas. Mais le tatouage est revenu avec les marins. C'est James Cook, notamment, qui le ramène au 18e siècle. En 1778, il trouve le mot tatao en Polynésie. Ça donnera tatou en anglais et tatouage en français. Et d'autres groupes vont s'en emparer.
Et quelles sont les autres personnes qui acceptent cette pratique?
Les bandits, les bagnards, les hommes de sac et de cordes. Alors pourquoi? Parce que sous l'Ancien Régime, on marque les corps. C'était comme ça qu'on punissait les bagnards et les prostituées. Ils étaient marqués à la fleur de lys. Et puis donc, progressivement, les bandits ont pris ces marques. Si bien qu'à la fin du 19e siècle, les policiers disaient qu'on pouvait connaître l'itinéraire d'un bandit en regardant son corps.
Mais dis donc, j'étais en train de penser à quelque chose. À quel moment le tatouage devient à la mode?
Alors ça s'est fait par vagues. Dans le courant du XXe siècle, déjà, des personnalités comme Winston Churchill, par exemple, se sont fait tatouer. Et puis ça s'est accéléré avec la mondialisation. Et il y a, à ce moment-là, les artistes, les sportifs, on pense à Beckham, par exemple, ou Gwyneth Paltrow, qui se sont tatoués. Et là, il y a une accélération énorme, si bien que depuis une dizaine d'années, on considère que maintenant, un Français sur 5 est ou aurait été tatoué. C'est une manière de se réapproprier son corps à un moment où toutes les prescriptions nous entourent.
Petit sondage autour de la table, qui est tatoué?
Non, pas moi.
On est 4. Bah oui, c'est le 5e. C'est celui qui va arriver ensuite.
Bah non, c'est vous sur la fesse gauche, vous avez
mais
dit.
Mais pas du tout, c'est une légende. Merci beaucoup Fabrice d'Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi, peu 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains, continue 2 heures de bonne humeur, d'actu et d'invités pour la décrypter. Vous connaissez certainement ce son. Le Figaro a dévoilé les chiffres d'habitude confidentiels de Netflix, la plateforme de vidéos à la demande. La barre des 5 millions d'abonnés en France aurait été dépassée. 5 millions d'abonnés, c'est plus que Canal+. L'ogre Netflix va-t-il tuer la télévision française ? Élément de réponse avec Philippe Bailly, directeur du cabinet NPA spécialisé dans l'audiovisuel. Mais avant cela, un peu de musique. Voici Lady Gaga et Bradley Cooper. Shallow sur Europe. Tell me something,
girl. Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'infos et d'humour, un humour qui n'est pas seulement assuré par votre serviteur ou par les chroniqueurs de la bande, mais parfois par les invités eux-mêmes. Comme mardi, nous recevions le directeur de l'immobilier d'Aéroport de Paris, et comme quoi on peut avoir de grosses responsabilités et conserver une tendresse pour la gaudriole et le calembour.
Merci infiniment, bon, merci beaucoup. Hein.
Salut les copains. À ne pas confondre avec ça pue les collants.
Ah oui.
Notre invité du jour sera-t-il aussi drôle ? En tout cas, Philippe Bailly, directeur du cabinet NPA spécialisé dans l'audiovisuel, est l'homme de la situation pour analyser avec nous les chiffres chocs publiés par Le Figaro concernant la plateforme de VOD Netflix, qui compte désormais plus de 5 millions d'abonnés en France. Canal+ est battu. Alors Netflix va-t-il tout balayer sur son passage ? Ça va changer la télé qu'on connaît aujourd'hui. On en parle dans un instant.
Il est 6h18. Il est 6h19. L'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Éric Drouet devant la justice aujourd'hui, l'une des figures des Gilets jaunes, comparaît pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Il avait appelé à un rassemblement début janvier, place de la Concorde. Theresa May joue la montre et perd un nouveau vote à Westminster. À 6 semaines de la date prévue du Brexit, les députés ont rejeté la motion pour permettre au gouvernement de renégocier l'accord avec les Européens. Enfin, 14 partis, dont La République En Marche, Les Républicains, le Parti Socialiste ou encore le Modem, ont lancé un appel contre l'antisémitisme. Ils invitent les Français à se réunir partout en France, et notamment place de la République à Paris, mardi à 19h.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce vendredi 15 février. L'actualité, c'est aussi la publication des chiffres de Netflix cette année, qui revendique plus de 5 millions d'abonnés en France. Qui sont les téléspectateurs de demain ? Est-ce que les chaînes de télé classiques sont en danger ? Qui est le consommateur de SVOD, service de vidéo à la demande ? Bonjour Philippe Bailly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du cabinet NPA Conseil. Vous menez régulièrement des enquêtes sur cette SVOD. Êtes-vous déjà surpris par ce chiffre de 5 millions d'abonnés à Netflix en France, soit plus que les abonnés de Canal+, hors bouquet opérateur ? C'est la fin d'une époque, c'est tout sauf anodin ce chiffre.
Oui, la comparaison avec Canal, elle a peut-être sa limite, et on y reviendra peut-être. Ouais. En tout cas, les 5 millions de Netflix, non, c'est pas une surprise. D'abord parce qu'ils étaient à 3,5 millions en avril dernier, donc sur une pente de forte croissance, et que nous, cette croissance, on la voit dans les usages, puisque tous les jours, on mesure, on interview 2500 personnes pour savoir si la veille, ils ont regardé de la SVOD, sur quel service et quel programme précisément.
Et j'ai envie de dire, heureusement que vous êtes là, parce qu'on ne peut pas connaître sinon les audiences de Netflix. On ne sait pas combien fait telle ou telle série, on ne sait pas combien la Casa des Papel a fait de vues. Eux, ils le savent, mais ils ne communiquent pas là-dessus.
Non, ils sont extrêmement discrets, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'ouvrir un petit peu, mais... timidement. Pour l'instant, effectivement, il faut être en dehors et mesurer ça de l'extérieur pour savoir. Mais avec un point aussi, c'est que la SVOD, c'est Netflix, le plus connu. Ouais. C'est aussi Amazon, c'est OCS.
Il y en a plein d'autres.
Il y en a beaucoup d'autres. Et l'avantage du travail qu'on fait, c'est qu'on mesure tout le monde.
Alors justement, c'est quoi le poids total de la VOD aujourd'hui en France, au-delà même de Netflix ?
Alors aujourd'hui, c'est à peu près 3 millions de personnes qui, tous les jours... regarde au moins un programme en SVOD. La moyenne, en fait, elle est plutôt de 3, et pour qui passe, disons, entre 2 et 3 heures tous les jours à regarder des séries, des films, des documentaires sur la SVOD.
Et c'est quoi le profil type d'un consommateur de SVOD ?
Alors, il y a un an, je vous aurais répondu, c'est vraiment très marqué 15-24, donc les plus jeunes. Et ce qu'on voit, c'est que le mouvement est en train de gagner ceux qui sont un peu plus âgés, les 25-34 qui sont en train de rattraper à peu près leurs jeunes frères et sœurs. Et puis, même les 35-49, les seuls qui sont un peu à la traîne aujourd'hui, c'est les plus de 50 ans. Comme quoi ?
Alors, qu'est-ce qui a le plus de succès sur ces plateformes ?
On parle souvent des séries, oui. Est-ce que c'est
ça ? On parle beaucoup des séries. C'est les séries qui dominent.
Ce sont vraiment les séries qui sont en tête de gondole, entre guillemets, ou en tout cas en tête de consommation, avec des séries qui sont un peu différentes, et c'est sans doute pour ça aussi qu'on va aller chercher chez Netflix ou les autres, de ce qu'on peut voir en TNT. Les séries en télé classique, entre guillemets, c'est très concentré sur la comédie et du policier traditionnel, disons.
Là, il y a des genres intermédiaires sur Netflix.
Du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy, du thriller, etc. Des choses qu'on voit encore une fois peu en télé, en tout cas en télé gratuite, et que les gens vont consommer massivement, puisque pour les séries les plus vues, 13 Reasons Why ou Casa de Papel, on est au-delà des 30 millions de vues l'an dernier.
Alors, Casa de Papel est une bonne série, mais une série, j'ai envie de dire, presque classique, elle aurait pu naître à la télévision, mais est-ce que, justement, les plateformes Netflix, avec la puissance de feu qu'ils ont, est-ce que la création n'est pas maintenant passée du côté des plateformes de SVOD? On voit Roma, le film d'Alfonso Cuarón, on a vu des séries plus originales comme The OA, par exemple, ou Dark, la série allemande, des formats que peut-être on n'aurait pas vu en télé, où les chaînes auraient été peut-être un peu frileuses de tenter des choses comme ça. On voit des belles choses, en fait, sur Netflix. Disons que c'est pas qu'une industrie, c'est de l'art aussi. Enfin, les vrais réalisateurs, ceux qui ont un message, se tournent vers ces plateformes.
Oui, on voit effectivement de très belles productions. C'est celles qui, hier, auraient sans doute été financées soit par le cinéma, et par exemple, Romain Cuarón a décidé de signer avec Netflix, mais peut-être aussi faute d'alternative. Ah. Et puis, on les aurait vus, sinon hier, dans l'univers de la télé payante plus traditionnelle, les chaînes thématiques. Aujourd'hui, la SVOD, d'une certaine manière, ouvre au public, mais aussi aux créateurs, une voie supplémentaire pour aller faire financer des programmes et ensuite susciter évidemment des vues.
Eva Rock.
Disney va lancer sa plateforme de SVOD à la fin de l'année, Disney+. En France, vous le disiez, il y a OCS, il y a Canal Play, il y a Amazon. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont mourir dans les prochains mois?
Alors, le match, en tout cas, avec l'entrée de Disney sur le ring, ça va être intéressant à suivre pour deux choses. D'une part, parce que Disney a déjà annoncé qu'ils allaient réserver des grosses productions, leur Captain Marvel, Avengers, pour les gros films qui sortent cette année, ou la future série Star Wars, donc à cette plateforme qui s'appellera Disney+. Puis le deuxième mouvement, c'est qu'ils sont en train de retirer certains des films ou des séries qu'ils avaient loués, entre guillemets, à des concurrents SVODistes. Ils sont en train de les retirer pour se les conserver.
Sécher leur catalogue, quoi, en fait. Hein, ouais.
Un peu de ça. En tout cas, demain, il va y avoir un vrai sujet de concurrence entre eux. On verra effectivement s'il y a de la place pour tout le monde et si l'abonné accepte d'additionner finalement les abonnements.
C'est ça.
Oui, bien sûr.
Philippe, une dernière question toute simple. Vous observez ce monde de l'audiovisuel qui change très vite, on l'a vu avec le boom de Netflix et des autres plateformes. Est-ce que dans 10 ans, Canal+ existera? Ou des chaînes, enfin la télévision telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a connue dans les années 2000, est-ce que ça existera encore? Ou est-ce que tout simplement, il n'y aura plus que de la SVOD?
Sur Canal, ils sont en train très largement quand même de reprofiler leur offre en mettant beaucoup plus en avant MyCanal, oui, donc de la consommation à la demande, et finalement en devenant eux-mêmes presque une plateforme de SVOD. Et pour le reste, pour les chaînes gratuites, je suis persuadé, mais on va pas trop s'y attarder, on n'a pas le temps, je suis persuadé qu'elles seront toujours là parce qu'elles remplissent un autre besoin, elles répondent à un autre besoin, et puis elles sont gratuites, ce qui... À la fin, n'est quand même pas totalement
effectivement,
indifférent.
Effectivement. Merci beaucoup, Philippe Bailly, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes directeur du cabinet NPA Conseil.
Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et le soleil continue son show.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, la météo de Céline Dacosta. Le printemps avant l'heure, Céline, ça continue.
Oui, avec encore beaucoup de soleil aujourd'hui. On a juste ce matin un ciel un petit peu voilé sur la pointe bretonne. Quelques nuages aussi entre les côtes du Roussillon et la vallée de la Gare. On a aussi encore quelques brumes sur la moitié nord, notamment du côté de Beauvais, en Picardie, alors Châteaudun, région centre. Là, elles peuvent même être givrantes. Cet après-midi, tout cela aura disparu. Ce sera grand soleil pour tout le monde.
Et les températures restent fraîches, cela dit, ce matin.
Oui, du négatif toujours dans le nord-est. À Nancy, on a moins 2 degrés. À Mulhouse, moins 1. Il en fait 0 à Lyon, 3 à Tours, 5 à Paris, 7 à Bordeaux, 9 à Biarritz. Et puis cet après-midi, en revanche, et comme hier, ce sera très agréable. On gagne même quelques degrés. On aura 13 à Brest, à Lille, 14 à Paris, à La Rochelle, 15 à Grenoble et Toulouse, 17 degrés à Marseille, 18 à Toulon, jusqu'à 20 degrés attendus à Biarritz. Température prise sous abri, donc au soleil, ça va grimper un petit peu plus.
Bien joué, Céline. Beau travail. À suivre dans une minute, le journal de David Doucan.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures à la lisière du journalisme et du burlesque, en compagnie de deux femmes exceptionnelles dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'ont pas volé leur carte de presse. Leurs apartés hors antenne, toujours frappés au coin du bon sens, leur ont valu le surnom des Catherine et Liliane du News. Hier encore, au détour d'un sujet sur le départ surprise d'Alain Juppé de sa mairie de Bordeaux, Catherine et Liliane n'ont pu s'empêcher de mettre leur grain de sel.
Ses proches sont tombés de l'armoire. Alain Juppé quitte Bordeaux pour entrer au Conseil constitutionnel.
C'est tombé de l'armoire, on imagine Juppé en train de tomber.
Non, mais on a l'image en fait.
Oh là là.
Pourquoi on dit tomber de l'armoire d'ailleurs?
Heureusement que de vrais professionnels de l'info, en l'occurrence les trois fantastiques, arrivent pour décrypter l'actualité économique, politique et médiatique. Mickaël Darmon nous révélera notamment, les amis, que Jean-Louis Debray prépare un film sur Jacques Chirac. On y vient, mais d'abord, le journal de celui qui est si cultivé qu'on l'appelle tout simplement l'érudit.
Connaissez-vous Molière?
Bon, David Doucan arrive.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Tout de suite. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté donc par l'érudit David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Des paramilitaires prêts à faire tomber le gouvernement. Emmanuel Macron et le mot guillotine dans la même phrase. Les propos sulfureux du gilet jaune Christophe Chalençon, enregistrés à son insu par une télévision italienne. Récit dès le début de ce journal. Les négociations patinent, elles sont même bloquées. Je vous parle de l'assurance chômage en cause. Les contrats courts, patronat et syndicats semblent à ce stade irréconciliable. Et enfin, attention, le point faible des voitures électriques s'appelle le froid. Dès que la température passe en dessous de zéro, les batteries se déchargent plus vite.
Europe 1.
Voilà qui en dit long sur la personnalité d'une figure des Gilets jaunes. Christophe Chalençon, leader du mouvement dans le Vaucluse, c'est à lui que le ministre italien Luigi Di Maio avait rendu visite au début du mois. Cela avait entraîné une crise diplomatique majeure entre la France et l'Italie. Eh bien, Christophe Chalençon a été enregistré à son insu par une télévision italienne. La journaliste a décidé de diffuser les extraits et, Aude Vernuccio, ce qu'on entend est bien plus radical que ce qui est dit habituellement dans le discours officiel des Gilets jaunes.
Oui, on entend Christophe Chalençon se confiait sans détour. Il dit se sentir menacé par l'État français, se croit surveillé par une sorte de police politique et ça donne des propos qu'il croyait privés et qui expriment une conception violente de la vie politique. Écoutez.
J'irai au bout de mes convictions. Parce que s'ils me mettent une balle dans la tête, Macron, il est passé à la guillotine. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de confrontation que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l'Élysée, il démonte tout. Lui, sa femme et toute la clique. On a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi tomber le pouvoir. Donc aujourd'hui, tout le monde est calme, mais on est à la limite de la guerre civile, je te l'ai dit.
Guillotine, rentrée dans l'Elysée, paramilitaire, la journaliste en reste bouche bée. Des termes qui reprennent les théories complotistes, mais que l'on n'avait jamais entendu de manière aussi directe dans le discours des Gilets jaunes. Certains leaders se sont d'ailleurs éloignés de Christophe Chalençon, qui a quitté les cortèges et les manifestations pour lancer, il y a quelques jours, son propre mouvement politique aux européennes, le MAC, ou Mouvement Alternatif Citoyen.
Merci à vous, Aude Vernuccio, pour ces précisions. Une autre figure du mouvement Gilets jaunes sera dans l'actualité aujourd'hui. Éric Drouet sera jugé. Le chauffeur routier de Seine-et-Marne comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour organisation de manifestations sans déclaration préalable. Le torchon brûle entre le patronat et les syndicats en cause les négociations sur la réforme de l'assurance chômage. Elle bloque sur les contrats courts. Les représentants des salariés exigent un système de sanctions financières pour les entreprises qui y ont trop recours. Le fameux bonus-malus, une réunion se tenait hier soir. Et à la fin, les syndicalistes ont lancé un ultimatum au patron pour qu'il propose d'ici le 19 février un projet d'accord avec le bonus-malus. Écoutez la représentante de la CFDT, Marie-Lise Léon.
La situation, elle est bloquée du fait du patronat. S'ils veulent débloquer la situation, c'est eux qui font la proposition que l'ensemble des organisations syndicales ont demandé. Donc on aura le verdict mardi prochain et on verra si le patronat est en capacité de prendre ses responsabilités, tout simplement pour lutter contre les contrats courts qui concernent une grande partie des travailleurs en situation précaire. Ce que le patronat doit comprendre maintenant, c'est qu'ils décident. Là, ils ont les cartes en main. Soit ils discutent avec nous d'une forme de modulation des cotisations, et on est prêt à regarder l'ensemble des critères, soit ils se font imposer celui du gouvernement. Donc clairement, ils sont au pied du mur et ils doivent décider ça rapidement.
Marie-Lise Léon de la CFDT au micro d'Olivier Samin. Donald Trump n'abandonne pas. Les démocrates refusent toujours de financer le mur à la frontière mexicaine. Le président contre-attaque. Il va déclarer l'urgence nationale, un dispositif qui lui permettrait de débloquer les fonds par décret.
À suivre dans ce journal, peut-être avez-vous une voiture électrique. Si c'est le cas, vous l'avez sans doute constaté, elle ne fait pas bon ménage avec le froid. Une étude américaine montre une perte d'autonomie considérable dès qu'on passe en dessous de zéro. À tout de suite.
Il est 6h35.
La suite du journal David Doucan, l'ennemi des voitures électriques, c'est le froid.
Et oui, c'est comme pour votre portable. Quand il fait froid, il se décharge plus vite. Selon une étude de l'Association américaine de l'automobile, sur plusieurs modèles, la perte d'autonomie dépasse les 40% dès que l'on atteint moins 6 degrés centigrades. Théo Manval.
Les modèles
testés sont récents, BMW i3, Nissan Leaf, la e-Golf de Volkswagen. Et le résultat a de quoi faire frissonner. En moyenne, par moins 6 degrés, avec le chauffage activé, on perdrait 41% d'autonomie. Des kilomètres en moins donc, pour plusieurs raisons. Stéphane Semeria dirige l'association Voitures électriques du Pays de Gex.
Au froid qui pourrait réduire le potentiel des batteries, il faut aussi savoir qu'on met des pneus neige, qui sont des pneus plus tendres, beaucoup plus collants, donc plus d'énergie pour les arracher à la route et les faire avancer. Le deuxième paramètre, c'est que le chauffage sur une voiture électrique, il faut bien le prendre quelque part, et ce quelque part, c'est forcément les batteries de traction.
Alors, perd-on vraiment 40% d'autonomie à moins 6 degrés? Plusieurs associations de conducteurs en France jugent le chiffre excessif. Reste que le grand froid est bien l'ennemi des batteries, même sous le capot. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans les manuels d'utilisation de Tesla ou Nissan, qui préviennent qu'en dessous de moins 25 degrés, leurs batteries peuvent carrément geler et ne même plus être rechargées.
Théo Manval pour Europe 1. C'est un proche parmi les proches qui va succéder à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, Nicolas Florian, qui était jusqu'à présent adjoint aux finances, a reçu le soutien unanime des élus de la majorité municipale. Virginie Calmels, qui était pourtant pressentie pour être la dauphine, a quant à elle annoncé son prochain retrait de la vie politique. Elle démissionnera du conseil municipal en même temps qu'Alain Juppé pour retourner dans le secteur privé. Et maintenant, un appel aux dons, mais c'est une première. Il est lancé par un hôpital public, celui de Saint-Lô, dans la Manche. Des investissements sont indispensables pour le moderniser, sauf que l'État n'arrive pas à suivre. Alors, le directeur a décidé de se tourner vers la générosité des particuliers et des entreprises. Reportage signé François Coulon.
C'est un hôpital suractif, 4% de patients supplémentaires chaque année et un boom des naissances à la maternité. Nathalie Bissot, cadre de santé.
De 1200 accouchements à 1600 accouchements en un an. On a fait une fois jusqu'à 17 accouchements sur les 24 heures. Il y a un bloc à refaire, des urgences à refaire. Le fait de faire le don à un hôpital peut surprendre, mais on a besoin d'aide.
Il faut trouver très vite 10 millions d'euros pour conserver le niveau d'excellence de l'hôpital de Saint-Lô. À votre bon cœur, lance le directeur Thierry Luc.
Les tarifs qui sont fixés par l'État baissent chaque année. Ce qu'on veut, c'est ne pas se lamenter parce que l'hôpital peut être en déficit, mais essayer de trouver des solutions qui permettent de continuer à investir.
Des milliers de particuliers et entreprises vont être démarchés. Les dons seront déductibles des impôts accueil mitigés chez les patients.
S'il faut faire appel aux gens pour donner des sous à l'hôpital qui est censé être public, c'est un peu choquant.
Je trouve ça très dommage que les pouvoirs publics ne soient pas capables d'aider nos hôpitaux. Après, s'il y a des mécènes qui ont envie de donner, ce serait intéressant quand même.
L'opération réanimation a déjà rapporté plusieurs milliers d'euros en quelques jours. Saint-Lô, François Coulon, Europe.
Et enfin, mon cher Mathieu Noël,
mon cher David,
de football.
Ah, vous adorez le football, bien le sûr, ballon rond, le beau jeu.
Le beau jeu. C'était hier soir, 16e de finale aller de la Ligue Europa et le club français. Je prends mon temps parce qu'en régie, on m'a dit que le journal était trop court.
Ah oui,
donc
vous voulez que je vous aide ?
Voilà. Non.
Mais surtout, ne nous laissez pas du temps pour la suite.
Je vous laisse, alors dérouler.
Donc le club français de Rennes recevait le Bétis Séville.
Club breton.
Qui joue en rouge. Score final. Le score final de ce match aller a été de 3 partout.
C'est juste ça, mais pour faire long, vous voyez, il fallait raconter tout le match. Vous auriez pu faire beaucoup plus long parce qu'on menait 2-0 et on a été rejoint 3-1. La catastrophe. Moi, j'ai arrêté d'écouter. Pourquoi je pensais que le match était gagné. Oui. Parce que je m'identifie toujours à chaque club français
tout
qui joue.
Tout d'un coup, il est
C'est plus pratique.
C'est ça.
Oui, je suis
Marseillais.
Dès qu'un club français, ça s'appelle le patriotisme.
Retournez sa veste.
Merci. C'était le journal de David Doucan. David, un journaliste au cuir tanné qui a connu le terrain et qui du coup nous trouve bien chochotte lorsque, comme hier, nous nous plaignons d'avoir trop chaud dans le studio. Ça le dépasse.
Ils ont chaud, hein. Ça va pas. Hein. Ils sont pas bien, ils ont chaud, ils sont stressés. C'est vraiment des amateurs. Ça tient pas la tempête tout ça.
Heureusement, Indiana, qu'il reste encore dans cette rédaction quelques vrais journalistes
bien
comme
sûr.
Vous. Allez, on fait un point sur le temps.
Ça tient pas
et
la tempête.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Ah, et Rénoval, qu'est-ce qu'il nous offre comme temps aujourd'hui? Encore une journée printanière. Bravo, Rénoval.
Rénoval a bien choisi sa semaine, hein, avec une moyenne cet après-midi de 12 à 20 degrés du nord au sud. Hier, on a relevé jusqu'à 22 degrés à Saint-Jean-de-Luz. Une température digne d'une mi-juin. En revanche, c'est encore l'hiver le matin, parce que les températures sont négatives dans le nord-est. Quelques gelées encore en pleine, 0 degrés à Nîmes, 5 à Paris en ce moment. Une maximale qui ne dépasse pas les 9 degrés à Biarritz. Et puis côté ciel, grand soleil. Après dissipation de quelques brumes, quelques nuages aussi dans le sud-ouest et nord-ouest.
Merci Céline. Eva Rock.
Depuis 5 heures, on demande aux auditeurs des idées de sortie, des coups de cœur culturels. Et bien Damien nous a répondu sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Le nouvel album de Stéphane Echer qui sort aujourd'hui avec un big band bernois. Et puis le film de Félix Moati, Deux fils. Et enfin, Noël, qui nous propose propose d'aller nous balader au château de la Roche-Peau, sur les pas de la Grande Vadrouille, parce que c'est là qu'a été tourné le film, et c'est en Bourgogne-Franche-Comté.
Il serait mieux de se concentrer sur le café Noël, moi, je vous le dis.
Mais non, c'est une autre.
Oui, je préfère. Une dame. Noël qui est la personne triste. Qui s'occupe oui, du café à Europe 1. Merci vous beaucoup, Eva Rock. C'est possible.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'allégresse informative placée sous le double patronage de la bonne humeur et de la bienveillance. Bienveillance qui s'exprime notamment durant les disques que nous diffusons et qui nous sont parfois imposés d'en haut.
Est-ce qu'un jour on le saura ?
T'as vu qu'Alogero, sa chanson se termine par stop. C'est-à-dire que lui-même en a marre.
À suivre. Politique, économie, médias, laissez les trois fantastiques vous disséquer l'actu. Au programme ce matin, les bons chiffres du tourisme en Île-de-France et un film signé Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel qui va nous raconter son Chirac. Ça devrait pas être triste.
Il est 6h42.
Des paramilitaires prêts à faire tomber le gouvernement, Emmanuel Macron et le mot guillotine dans une même phrase, les propos sulfureux du gilet jaune Christophe Chalençon enregistré à son insu par une télévision italienne. Le torchon brûle entre le patronat et les syndicats, les négociations sur la réforme de l'assurance chômage sont bloquées, en cause les contrats courts, les syndicats veulent un système de bonus-malus, les patrons refusent. Enfin, Donald Trump n'abandonne pas, les démocrates refusent toujours de financer le mur à la frontière mexicaine, le président contre-attaque, il va déclarer l'urgence nationale, un dispositif qui lui permettrait de débloquer les fonds par décret.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À l'approche du week-end, c'est humain, beaucoup d'entre nous se ramollissent. On devient plus coulant, notre esprit critique s'émousse, pas eux. Ils sont les trois fantastiques. Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie, Eva Rock pour les médias. Trois esprits vifs, toujours critiques. Prenez Eva Rock par exemple. Hier, pour la Saint-Valentin, même les plus cyniques avaient déclaré une trêve avec le mauvais esprit. Il ne serait venu à l'idée de personne de casser la magie du romantisme, surtout à l'issue d'un reportage émouvant sur un gentil couple qui avait fait graver leur nom sur un banc public. Mais voilà, c'est le propre des esprits forts que d'être inflexible, même devant la niaiserie.
C'est sympa de pouvoir avoir notre preuve d'amour ailleurs que dans nos cœurs. On trouvait l'idée très belle et un peu d'amour, ça fait du bien.
Et quand ils vont dire comment ça va se passer?
Et oui, la rock est impitoyable. Même le jour de la Saint-Valentin me fait peur. Mickaël Darmon, on va plutôt commencer par vous et la politique. Ça fait moins peur. Alors que nous apprenions mercredi qu'Alain Juppé rejoignait le Conseil constitutionnel, ce matin, Mickaël, vous nous parlez d'un ancien président de cette même instance, Jean-Louis Debré. Il débute une nouvelle carrière.
C'est sa 7e vie professionnelle. Un magistrat, député, ministre, président de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel. Jean-Louis Debré, c'est un petit peu le chat de la République. Alors après les polars politiques, le voici maintenant réalisateur de documentaires. Et le sujet qu'il a choisi d'explorer, c'est Jacques Chirac, un personnage qu'il connaît tellement bien, mais dont il cherche encore la vérité après des décennies de compagnonnage politique. Alors le film s'appelle « Mon Chirac », à base d'archives, d'images d'archives, et un commentaire très personnel de Debré, et surtout des interlocuteurs inédits, choisis selon un critère, aucun politique, sauf un, François Hollande, qui revient donc dans cet entretien sur l'épisode de sa première rencontre avec Jacques Chirac, lorsqu'il s'est présenté dans la circonscription donc en Corrèze. C'est un combat politique qui finalement a créé des liens d'estime et d'amitié. On le verra. Autre interview inattendue, le grand rabbin de France, Raïm Korsia. Les deux hommes, il faut le savoir, sont très proches. Et Chirac, c'est très peu connu, a une grande admiration pour les familles monarchiques du Golfe et pour les juifs ultra-orthodoxes. François Pinault et Claude Chirac, fait rarissime, interviennent également. Tous avec Debré, le réalisateur, vont essayer de cerner cet être multiple, pudique, qui a toujours détesté parler de lui. Chirac, l'homme de la terre, de l'érudition, la séduction du pouvoir, de son aversion pour les extrêmes. Bref, quand Debré, le politique, passe derrière la caméra, il cerne l'histoire d'un homme de France.
Chirac a longtemps adoré cacher son jeu derrière un personnage supposé aimer les westerns et la corona.
Et oui, c'était une opération parfaite de camouflage. Lorsqu'il est réélu en 2002, sa fille Claude dit « Chirac s'est rejoint lui-même ». Une phrase que l'on comprend mieux depuis. En réalité, Chirac, le transformiste, s'est dévoilé au fil du temps, expert de la poésie extrême-orientale, amoureux des cultures des autres mondes. D'ailleurs, son musée du Quai Branly sur les arts premiers est un message pour dire qu'il y a autre chose sur Terre que le monde occidental et ses vérités. Une génération d'ailleurs s'y est pas trompée. Depuis quelques années, on a vu fleurir des t-shirts parmi la population branchée avec le Chirac des années 70, Club Obeck, look de Garrigante. Bref, c'est cela aussi que l'autre transformiste de la Chiracie, Debré, a voulu capter avec ses mots, ses questions, sa caméra. Mon Chirac sera diffusé en mars sur la chaîne parlementaire. Pas une enquête, mais une quête sur le chemin d'un destin.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cet éclairage. Je rappelle un film qu'on peut toujours voir, je pense, le film de Carl Zero à l'époque sur Jacques Chirac.
J'avais été
invité à la projection de film. J'ai rarement autant ri à un film. Ouais. C'était vraiment avec la voix de Carl Zero qui commentait, c'était très très drôle. Mon cher
et
Axel
il est
de
maintenant
Tarlé.
Tous les jours entre 16h et 17h sur
maintenant exactement. Notre collègue. Axel de Tarlé, on parle tourisme avec un record. Record de tourisme en Île-de-France malgré les gilets jaunes.
Oui, c'est vrai que les gilets jaunes ils sont surtout venus en décembre. Donc à mon avis, il y aura plus de stigmates pour l'année 2000. Oui, puis les gens avaient déjà réservé leur week-end à Paris. Ils n'ont pas été déçus du coup devant les gilets jaunes. Il n'empêche, record donc, pour l'année 2018, 50 millions de touristes à Paris. Et pour la première fois, si on regarde les nuits à l'hôtel, moi je dois avouer que j'ai été surpris, je pensais que c'était déjà le cas. Mais pour la première fois, les touristes étrangers sont plus nombreux que les touristes français. Vous savez, tous les gens qui habitent dans les régions et qui viennent voir la Tour Eiffel, etc. Ce qui est... C'est plus important les touristes étrangers pour, en termes économiques. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent net qui rentre dans le territoire. Ah oui. Et voilà. Et donc, c'est un enrichissement net pour la France. Alors, en tout, les touristes ont dépensé 21 milliards d'euros l'an dernier en région parisienne. Vous voyez, c'était une vraie richesse.
Pas mal.
Alors, si on regarde par nationalité, à votre avis, quels sont les touristes les plus nombreux qui sont venus à Paris voir la Tour Eiffel,
le
Louvre,
etc.
Les Américains en numéro 1.
Les Chinois
sont numéro 3. 4 même. Ah. Avant, il y a des Européens quand même qui sont pas loin, notamment, il y en a qui
les
ont
Britanniques,
juste...
Hein.
Les Britanniques en numéro 2, les Allemands en numéro 3, les Chinois en numéro 4 et en numéro 5, ce sont les Espagnols.
Est-ce qu'il n'y a pas, Axel, un risque de surtourisme un peu comme à Venise ?
Oui, à Venise, vous avez vu, maintenant, la place Saint-Marc est payante. Il y a des tourniquets, c'est quand même très triste. Oui, il y a des tourniquets. Pour accéder à la place Saint-Marc, il faut payer 1 euro, je crois, ou je ne sais plus combien.
Donc, voilà, ça casse quand même le...
Alors, justement, la question a été posée hier à Valérie Pécresse. Est-ce qu'on va pas terminer comme Venise ? Alors, elle dit non. Pas du tout. Au contraire, nos infrastructures sont sous-utilisées. Et elle cite un sondage qui montre un sondage du Comité régional du tourisme, seuls 3% des franciliens estiment qu'il y a trop de touristes, alors qu'à Venise et à Amsterdam, il y a beaucoup de touristes, la municipalité a dû prendre des mesures. 20% de la population est agacée par les touristes. Vous savez que l'an dernier, le hit à Paris en termes de visites, ça a été le Louvre qui a fait plus 25%, 10 millions de touristes. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce clip de Beyoncé et Jay-Z qui s'appelle La nuit au Louvre. Clip, alors moi, c'est pas ma cam. Mais je dois avouer que c'est très bien.
C'est pas ta cam, Axel de Tarlé.
Non, ouais, c'est un peu trop moderne pour moi. Mais on va passer un extrait parce que le clip est très bien fait. Mais écoutez.
Trop stylé. Et là, suivez Axel de Tarlé en vidéo sur Europe.fr.
Le rap, c'est pas mon truc, mais le clip est très bien fait. Il est tourné de nuit au Louvre et ça donne vraiment envie d'aller voir le Louvre. D'où d'ailleurs les plus 25% l'an dernier.
Ils ont eu une autorisation spéciale.
Et je dois dire que ça rend Paris sexy.
Mais il n'y a pas besoin de ça, vous êtes là déjà, Axel. Merci beaucoup, Axel de Tarlé. Une autre chronique sexy et baroque.
Écoutez, je vous propose de regarder ce soir TF1, 21h. Ce soir, c'est Palma Show. Alors, le Palma Show, c'est deux garçons totalement fous, Grégoire Ludig et David Marseille. C'est un duo qui s'est fait connaître sur le web il y a une douzaine d'années, avant de se faire repérer par des directeurs de chaîne. D8, c'était l'ancien nom de C8 dans un premier temps, et donc TF1. Et ce soir, les voilà à la tête de leur émission, un condensé de sketchs et de parodies d'émissions de télé, ce qu'ils maîtrisent parfaitement. Alors, quand ils refont des bandes annonces, des programmes du soir, ça donne ça.
Sur la 3, des racines et des plumes.
Ce soir, je vous emmène dans le Loir-et-Cher, visiter le château de Chambord pour la 85e fois consécutive dans notre émission. Peut-être ont-ils changé un truc ? Les douves ? J'espère. On est marre.
Sur Canal, votre soirée foot.
Je suis avec Diego là. Oh Diego, tu as fait un super match. Tu es entré, tu passais par entrée. Hein. Le président, il t'aime bien. Tout le monde est ici, t'aime bien. Moi, mon fils, t'aime bien. Mi corazón te gusta. How's the feeling of the game, of the match ? Que te pensa ?
Quoi ?
Voilà, en tous les cas, on te le souhaite, Diego. Hein. Toi, tu es un bon gars, tu es super.
Alors, difficile évidemment de ne pas souffrir de la comparaison avec les nuls et surtout les inconnus. Moi, je redoutais le programme, qui était un peu long d'ailleurs, 1h30 sur le papier en tout cas, mais je dois reconnaître avoir été bluffé par la qualité d'écriture des scénettes. Vraiment, les séquences sont portées par un casting de choix. Florence Foresti, Pio Marmaille, Alain Chabat, hilarant dans une suite de parodies de films, ou encore Benoît Poulvorde dans une parodie de Patron Incognito, l'émission M6, hilarant, ou encore Jérôme Commandeur qui se rêve en Mister Météo.
Bon bah tu connais le programme, hein, voilà, faut que ce soit rapide, concis, ouais. Hein, tu donnes les informations nécessaires, voilà.
Comptez sur moi les gars. Bonsoir et bienvenue pour ce bulletin météo, bienvenue à vous tous qui nous regardez dans votre salon, sur votre canapé, sur votre sofa, clic-clac peut-être, hein, peut-être que vous dormez même dans le salon, on a tous eu un coup de moins bien dans nos vies.
Ouais.
Clic-clac. Tu parles à tout le monde. Ouais, juste le coup du clic-clac, on entraîne peut-être un peu trop chez les gens.
Un peu plus rapide.
Ouais, okay, on peut enchaîner. Voilà, plus on peut enchaîner.
Alors, malgré l'absence de fil rouge, impossible de décrocher. Le rythme est là, l'originalité aussi, avec des sketchs muets très réussis, l'interprétation au plus juste, et puis du travail, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail dans cette soirée. L'exigence et la rigueur. Tout n'est pas parfait, mais franchement, ça mérite le détour. Allez, et puis pour finir, un peu de musique façon Palma Show.
Alors ton cœur, il a battu la charade. Dans les fruits du verger, t'as failli tomber. Alors fais vite, la fais pas marinade.
Alors Axel, préférez ça ou plutôt Beyoncé?
Du rap, du rap.
Oh, du rap. Oh, ma pauvre dame, du rap, pour la France. Merci beaucoup, Eva Rock, pour ce conseil télé qu'on suivra. Merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. Les trois fantastiques seront de retour lundi après un bon week-end.
Europe 1. Il est 6h53, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à céder la place à la matinale de Nikos Aliagas. Passage d'antenne qui est toujours l'occasion de s'en payer une bonne tranche avec le débrief de la matinale de Nikos. Mais juste avant Eva, vos fans le réclament. Un petit secret de star ?
Mon grand-père était le sosie de Jean Gabin.
Non !
Ouais.
Non ! Quelle famille !
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Pour l'équipe de Debout les copains, le week-end est déjà là. Pour l'équipe du 7-9, en revanche, tout le boulot reste à faire. Et deuxième mauvaise nouvelle pour Nikos, c'est l'heure du débrief de sa matinale hier. Et oui, hier c'était la Saint-Valentin, la fête des amoureux, la fête des lovers. Nikos s'est donc dit que c'était le jour ou jamais pour retenter sa chance avec Céline Kallmann, la séduisante présentatrice du journal de 7h30. Après sa petite déconvenue de la veille, quand Céline avait balayé d'un revers de la main son compliment sur son chemisier...
Bonjour Céline, vous êtes belle en noir.
Ah ouais.
Nikos était sûr que l'esprit de la Saint-Valentin lui permettrait cette fois d'attirer l'attention de la belle.
Vous regardez un peu à la télé de temps en temps, Céline Kallmann ?
Pas trop, j'ai pas vraiment le temps.
Caramba ! Encore raté !
Décidément,
l'amour est vraiment injuste, mal réparti, car à peine 2 mètres de là, une autre collègue, elle, est totalement fan de Nikos, elle ne rate pas une seule de ses émissions. Pourquoi ne la regarde-t-il pas ? Pourtant, elle s'échine à envoyer des messages subliminaux, certes discrets.
This is a vibe !
Parfois, elle va même jusqu'à chanter, espérant que Nikos se retourne.
Donne-moi ton corps, baby, ton cœur, baby.
Mais il ne se retourne pas, en vain. Nikos ne la voit pas. C'est vraiment la groupie du pianiste, Céline Dacosta. Elle l'idolâtre, il s'en fout, il ne pense pas à elle. Lui qui pourtant pense à tout le monde. En effet, conformément aux nouvelles consignes formulées par la direction, le présentateur de la matinale doit, pour aller les chercher, s'adresser à tous les publics, même ceux qui en temps normal n'écoutent pas Europe 1, voire même pas la radio.
Ça t'a plu, ça.
Message reçu 5 sur 5 par Nikos. Peut-être même 6 sur 5.
Êtes-vous bien réveillé ? Vous êtes encore dans votre lit ou tout simplement vous dormez et vous n'en avez rien à fiche de ce que je vous dis.
Mais c'est vrai. Ce qui est beau, c'est que vous réalisez au milieu de la phrase que vous êtes allé trop loin. Allez chercher les types qui dorment, c'est bon, ça c'est fort, il fallait y penser. Enfin hier, c'était donc les amis, la Saint-Valentin, beaucoup de sujets mielleux consacrés à des jeunes couples énamourés qui se bécotent sur les bancs publics et qui éventuellement y font graver leur nom entouré d'un cœur. Un degré de niaiserie qui a fortement agacé Laurent Cabrol, Lolo alias le casseur d'ambiance. Partout où il passe, l'amour trépasse.
Puisque nous fêtons la Saint-Valentin, tenez, sachez que Valentin, c'est un prêtre qui au 3e siècle célébrait des mariages interdits et il fut décapité.
Ça c'est fait.
Merci Lolo.
Mais
on
l'adore.
Avait marre de la niaiserie.
Mais c'est toujours le cas. Tout le monde dit ouais, mais moi je fête pas la Saint-Valentin.
Et puis finalement.
Et tout le monde en parle. Alors, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Vous l'avez fêté la Saint-Valentin, vous ?
Mais j'ai pas fêté la Saint-Valentin, par contre j'en ai beaucoup parlé.
Ça a été notre fête aussi, surtout grâce à vous. Merci beaucoup.
J'ai pas fait non plus.
Vous n'avez pas fait depuis quand ?
8 ans.
Un siècle.
Merci. Et Rock, bon week-end.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.